Chapitre 30. 6. Se leva d'un bond. Sans un mot, elle fit trois grandes enjambées pour approcher du mur où s'étendait le grand dessin de Violette. La femme au visage blafard plaqua ses doigts osseux sur les symboles tracés par la reine quelques jours plus tôt. Ses motifs se mirent à briller, en jaune, rouge et bleu, les trois types de craie utilisés par Violette pour cette partie de son œuvre. À la lueur vacillante de cet arc-en-ciel tronqué, Rachel jeta un coup d'œil furtif à Violette. Perchée sur un tabouret tendu de velours rouge que la fillette avait dû s'échiner à transporter pour elle, la souveraine qui s'ennuyait à mourir pianotait du bout des ongles sur la roche effritée derrière elle. Depuis quelques jours, Rachel surnommait sa tortionnaire « la reine troglodyte ». Rien d'illogique là-dedans puisque Violette et sa cour passaient le plus clair de leur temps dans la grotte. Quand elle ne dessinait pas, sa majesté refusait de s'asseoir sur un rocher. Si un trône de ce genre était excellent pour Rachel, il ne convenait pas à un postérieur royal. Six se fichait comme d'une guigne des fesses de sa souveraine. Les tabourets, rembourrés ou non, ne semblaient pas être un sujet capital pour elle et elle n'en faisait pas mystère. Comprenant que sa conseillère ne s'abaisserait pas à résoudre son problème, Violette avait contraint Rachel à porter le précieux siège jusque dans la caverne. Bon sang, que ce fichu tabouret était lourd! Et maintenant, trônant sur un perchoir des plus amicaux pour son arrière-train, la reine troglodyte, gonflée de son importance, attendait que sa conseillère la conseille sur ce qu'elle devait faire ensuite.
« Il vient !» dit Six. « Il traverse de nouveau le vide !»
À l'évidence, la harpie ne s'adressait pas à Violette, mais elle se parlait tout haut. La jeune reine aurait tout aussi bien pu être ailleurs ou avoir cédé sa place à un pot de fleurs. Violette leva les yeux. Elle n'avait apparemment pas l'intention de se lever tant que Six ne lui aurait pas dit de dessiner encore, mais son intérêt était éveillé, ça crevait les yeux. Après tout, ce qui se passait à l'instant même justifiait sa présence dans un endroit ignoble. Si elle n'avait pas eu un objectif bien précis, qu'aurait-elle fichu dans ce trou alors que des essayages de robes et de bijoux l'attendaient à la cour? Sans parler des fêtes incessantes où tous les invités se pâmaient devant la tête couronnée. Les mains glissant sur le dessin, Six semblait s'être immergée dans un autre monde. Posant une joue contre la roche, elle tendit un bras dans son dos.
« Viens, mon enfant !»
Une grimace tordit comiquement le visage boudiné de Violette.
« Tu voulais dire ma reine, je suppose ?»
Six n'entendit pas la remarque ou décida de l'ignorer superbement.
« Dépêche-toi, il est temps d'établir les connexions.
« Maintenant ?»
demanda Violette en se levant.
« L'heure du dîner est passée depuis longtemps, je meurs de faim !»
Alors qu'elle frottait sa joue contre le dessin, on eût dit un chat qui flanque des coups de tête à la jambe de son maître, Six semblait très loin de toute préoccupation gastronomique. Elle plia les doigts plusieurs fois, faisant signe à la reine d'approcher.
« C'est le moment ou jamais. Allez, viens. On ne doit surtout pas rater une si belle occasion. Il faut du temps pour établir des connexions pareilles, et qui sait de quel délai nous disposons.
Pourquoi n'avons-nous pas commencé plus tôt dans ce cas ?
Parce qu'il faut agir pendant qu'il est dans le vide. »
Six fit mine de donner un coup de patte griffu.
« Il est toujours plus facile d'arracher les yeux d'un ennemi quand il est aveugle. »
« Je ne vois pas pourquoi. »
« Le protocole est immuable. Tu veux que nous le fassions ou non ?»
Violette décroisa les bras.
« J'y suis décidée, oui. Alors mettons-nous au travail. À toi de parachever les connexions. »
L'air décidé, Violette s'empara des morceaux de craie colorée qui reposaient sur une petite saillie rocheuse derrière elle. Quand elle l'eut rejointe, Six désigna une zone de la roche.
« Commence par le signe de la dague, comme je te l'ai enseigné. Lorsque nous établirons le lien, ce que tu auras forgé devra être en mesure de trancher avec précision et netteté. »
Six prit le poignet de Violette et le déplaça jusqu'à ce que la craie soit face au symbole requis. Puis elle poussa doucement jusqu'à ce que la craie touche le dessin, mais à son sommet, dans un périmètre circonscrit par une dizaine de points.
« Je te l'ai toujours dit, mon enfant. Si tu commets une erreur maintenant, elle sera irréparable jusqu'à la fin des temps. »
« Je sais, »
souffla Violette.
« J'ai failli choisir le mauvais point d'apex, mais j'ai trouvé le bon maintenant. »
Ignorant la reine, Six garda les yeux rivés sur le dessin tandis que la craie se mettait en mouvement.
« Passe au rouge !»
ordonna la conseillère, alors que Violette avait dessiné une très courte ligne. Sans protester, la souveraine prit la craie rouge et entreprit de tracer une perpendiculaire à partir de l'extrémité de la ligne droite jaune qu'elle venait de dessiner. Lorsque cette tangente eut avalé la moitié de la distance la séparant du portrait de Richard, Violette n'eut pas besoin d'un ordre pour passer à la craie bleue.
« Très bien !»
la complimenta Six.
« À présent, trace une courbe qui revient en arrière afin d'achever la première ligature. »
Violette dessina un cercle au bout de la ligne rouge, puis elle ajouta une nouvelle droite qui traversa tout l'espace vide sur la roche. Quand cette ligne bleue eut atteint un des points matérialisés sur le symbole suivant, la reine revint en arrière, puis traça à partir du cercle une ligne le connectant au sourcier. Le réseau complexe de traits jaunes, rouges et bleus commença lui aussi à briller. Un rayon jaillit du cercle, comme s'il s'agissait de la lumière d'un phare par une nuit sans lune. Six leva une main pour indiquer à Violette de ne pas passer immédiatement à la séquence suivante.
« Un problème ?»
demanda la reine.
« Quelque chose cloche. »
Six plaqua de nouveau sa joue sur la roche. Cette fois, elle avait visé le front de Richard.
« Oui, quelque chose ne va pas du tout. »
Richard prit une nouvelle inspiration, inhalant voluptueusement du vif argent. Sans doute à cause de tous les tracas qui tourbillonnaient dans sa tête, il n'éprouva pas l'extase en principe liée à tout voyage dans la Slif. En un éclair, il s'avisa que son explication ne tenait pas la route. Chaque fois qu'il voyageait dans la Slif, un ou plusieurs problèmes le perturbaient, sinon pourquoi aurait-il opté pour ce moyen de transport? Et ça n'avait jamais oblitéré la composante grisante de l'expérience. S'il ne réagissait pas comme d'habitude, ce n'était pas la faute de ses ennuis, mais parce qu'un terrible pressentiment l'écrasait de tout son poids. À chaque inspiration, une main invisible lui comprimait un peu plus les poumons. Dans la Slif, on ne voyait rien, au sens habituel du terme, et on perdait toute notion du temps et de l'espace. Malgré ça, on n'était pas aveugle, car des couleurs fragmentées et des ombres indistinctes vous défilaient en permanence devant les yeux. Ce défilement, entre autres choses, procurait une incroyable sensation de vitesse. À chaque voyage, Richard avait eu le sentiment d'être une flèche tirée par un arc formidablement puissant. En même temps, il aurait juré dériver paresseusement dans le vif argent, comme si le transfert était destiné à durer jusqu'à la fin des temps. Ce feu d'artifice de sensations contradictoires finissait par pousser le sourcier à se défaire de sa coutumière exigence de logique et de rationalité. Dans la Slif, son esprit cessait de devenir analytique, retournant à la vision du monde primal d'un bébé. Pris dans ce tourbillon, Richard commença d'abord par oublier son angoisse. Alors qu'il était presque parfaitement détendu, il capta contre sa peau une pression furtive ou un contact imposé qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait expérimenté lors de ses précédents voyages. La prémonition d'une catastrophe imminente revint en force. La pression qu'il venait de capter, s'avisa-t-il, ne ressemblait pas à celle qui lui avait gâché une partie de l'extase. Alors qu'il s'enfonçait dans le vide de la Slif, il tenta d'isoler cette pression de tout ce qu'il pouvait ressentir d'autre. Dans ce processus, il parvint à localiser très précisément la douce et toujours constante sollicitude de la Slif, occupée à l'immuniser contre les effets d'une vitesse qui l'aurait sinon taillé en pièces en un clin d'œil. En toile de fond, il identifia aussi la tendre sérénité dont la créature magique avait besoin pour convaincre ses clients de la respirer. Mais il n'y avait pas que ça. Quelque chose parasitait l'harmonie coutumière de l'environnement que la Slif générait pour ses passagers. De quoi s'agissait-il, bon sang ? Richard était sûr que quelque chose allait de travers, terriblement de travers même, mais il aurait été incapable de dire quoi. Plus troublant encore, il ne savait même pas comment il avait senti cette imperfection dévastatrice. Qu'est-ce qui avait ainsi mobilisé son esprit et porté sa vigilance à un niveau maximal ? Une seule réponse lui vint à l'esprit. Le contact furtif qui n'entrait pas dans le protocole compassionnel de la Slif. Avait-il pu imaginer cette intrusion absurdement discrète? Non, ce n'était pas ça. Il avait senti l'altérité de... De quoi exactement? Eh bien, de l'équivalent d'une mauvaise odeur, par exemple. Comme s'il était allongé dans l'herbe au milieu d'une magnifique prairie par une belle journée d'été, alors qu'il s'emplissait les poumons du parfum des fleurs sauvages, admirant rêveusement les rares nuages immaculés qui dérivaient dans le ciel, la puanteur d'une carcasse en décomposition, montant par intermittence à ses narines, lui faisait prendre peu à peu conscience que le doux bruit qu'il entendait était en réalité le lointain bourdonnement d'un essaim de mouches affamées. Pareillement, pour employer une image brutale, l'ivresse associée à la Slif menaçait de se transformer en une abominable gueule de bois. Loin d'être agréable, la désorientation devenait une source d'angoisse irrépressible. Dès le début, Kara avait serré très fort la main droite de son seigneur. Mais Nietzsche lui broyait depuis peu la gauche. La magicienne avait également perçu la distorsion. Il en aurait mis sa tête à couper. Hélas, parler étant impossible dans la Slif, il ne pouvait pas lui demander ce qu'elle ressentait. Le sourcier ouvrit les yeux en grand, mais il ne vit rien de plus précis que les couleurs et les ombres coutumières. Comme d'habitude, des rayons lumineux, jaunes, rouges et bleus, déchiraient les ténèbres à nul autre pareil qui régnait dans la Slif. Ces rayons, aurait juré Richard, ne se déplaçaient pas comme les fois précédentes. Mais comment en être sûr dans un environnement si différent de tout ce qu'un être humain connaissait d'habitude? Avec la magie, on était souvent projeté ainsi dans un plan de la réalité dont on ne savait rien, et que les initiés, bien entendu, s'étaient gardés de décrire sérieusement dans les grimoires et autres traités. Même dans le vif argent, l'instinct d'un forestier ne pouvait pas le tromper. Et cet instinct hurlait à Richard qu'il y avait devant lui quelqu'un ou quelque chose qui avançait souplement dans les entrailles de la Slif. C'était la stricte vérité. Quand il vit enfin qu'il ne se trompait pas, Richard crut qu'il s'agissait de grands pétales de fleurs sur le point de s'ouvrir. En approchant, il constata qu'on eût plutôt dit une multitude de longs bras aussi souples et puissants que des tentacules. Ces extensions jaillissaient d'une masse centrale diffuse dont le sourcier ne parvenait pas à distinguer les contours. Comment pouvait-on se trouver face à quelque chose de si incompréhensible? En plissant les yeux, Richard crut voir que cette créature, si c'en était une, était composée de fragments de verre assemblés pour former une masse cohérente qui semblait vouloir éclore avant d'entrer en contact avec lui. À travers les bras translucides, il voyait les rayons lumineux se perdre dans le lointain. Un bout de l'univers inconcevablement éloigné, semblait-il. Le sourcier n'avait jamais rien observé de semblable. Malgré toutes ses connaissances, moins livresques que glanées dans la nature, il ne parvenait tout simplement pas à comprendre ce qu'il voyait. Comme si la masse translucide avait été présente sans l'être tout à fait pour de bon. Tout à coup, la lumière se fit dans l'esprit de Richard. Au même instant, Nietzsche lui tira si fort sur la main qu'il crut un instant qu'elle entendait lui déboîter l'épaule. La magicienne avait dû ralentir considérablement la course de son protégé puisque Kara, qui lui tenait toujours l'autre main, lui passa devant à la vitesse de l'éclair. Richard l'attira en arrière, puis esquiva à la dernière seconde la masse translucide qui se ruait sur lui. Sans l'intervention de Nietzsche, la collision aurait été inévitable, et maintenant, le sourcier savait à qui il avait affaire. La bête de sang. Le sentiment d'être face à face avec le mal absolu devint si puissant que Richard céda à la panique. La bête l'avait manqué, mais elle ne se laisserait pas abuser deux fois. Dès qu'elle eut dépassé les trois voyageurs, la créature fit demi-tour et repassa à l'assaut, ses tentacules se tendant vers la proie qu'il poursuivait depuis si longtemps. Cette fois, Nietzsche tira Richard hors d'atteinte du monstre. Comme si cette résistance inattendue les emplissait de rage, les bras de verre se tendirent de nouveau vers leur cible. Richard lâcha la main de Kara et dégaina son couteau. Décidé à ne pas le perdre, la mort de Sid s'accrocha d'instinct à la chemise de son seigneur. Le sourcier entreprit de taillader les tentacules qui s'attaquaient à lui avec de plus en plus de violence. Très vite, il dut admettre que se battre au couteau dans la Slif était pratiquement impossible.
Dans un environnement si visqueux, les coups n'avaient aucune force, comme si Richard avait tenté de s'entraîner à l'escrime dans un pot de miel géant. Jamais à court de ressources quand il s'agissait de changer de tactique, il laissa les tentacules s'enrouler autour de lui et attendit d'être à distance de frappe de la masse translucide. Quand ce fut fait, il attaqua ce qui semblait être le centre du monstre et, par conséquent, le siège probable de ce qui lui tenait lieu de conscience. Loin d'être blessé, la créature modifia simplement sa structure pour envelopper la lame et le bras de son adversaire. Le coup ayant ainsi été plus absorbé qu'esquivé, le monstre reprit ses distances avec le sourcier. Ses tentacules revinrent à la charge avec une fureur renouvelée. Dotée d'une souplesse de serpent, la bête ne paraissait pas le moins du monde gênée par l'environnement inhabituel dans lequel elle devait combattre. Sur la droite de Richard, une main toujours refermée sur sa chemise, Kara tentait d'attaquer la créature avec son bras libre. Sur la gauche, Nietzsche essayait désespérément de jeter un sort, mais son pouvoir ne semblait pas actif au cœur de la Slife. Un tentacule s'enroula soudain autour du bras de Richard, et un autre fit de même autour d'un poignet de Kara. Comprenant les intentions de la créature, la Mordecide serra plus fort la chemise de son seigneur. En vain. Tirant avec une puissance impensable, surtout dans cet environnement presque gluant, le monstre écarta sans effort la garde du corps de son protégé. En un clin d'œil, Kara ne fut plus en vue. Dans le vif argent, Richard n'avait aucun moyen de voir où elle était ni d'estimer la distance qui la séparait de lui. Plus terrible encore, il n'aurait su dire si la Mordecide était indemne ou avait été tuée par la bête. Nietzsche passa son bras libre autour de la taille du sourcier. Autour des deux voyageurs, les tentacules formaient à présent une sorte de nid de serpent qui se transformait lentement en piège mortel. De plus en plus audacieuses, les extensions translucides s'enroulaient maintenant autour des jambes du sourcier et de sa compagne. Même s'il ne pouvait pas entendre Nietzsche dans le sens conventionnel du terme, Richard captait les cris de rage qu'elle poussait tout en combattant la créature qui venait de les prendre dans ses filets. D'étranges filaments de lumière, des éclairs avortés, tourbillonnaient autour de la magicienne. Elle utilisait son pouvoir, mais il n'avait aucun effet sur la bête. Oubliant la douleur que lui infligeaient les tentacules qui l'emprisonnaient déjà, Richard continuait à frapper tout ce qui passait à sa portée. Malgré leur aspect spectral qui pouvait faire douter de leur existence, même lorsqu'ils vous torturaient, les étranges bras se révélaient difficiles à blesser et encore plus à sectionner. Luttant avec sa férocité habituelle, Richard réussit pourtant à en détacher quelques-uns du grand corps transparent de la bête. Comme des anguilles mortes, les extensions meurtrières sombraient alors dans le vif argent et disparaissaient de la vue de Richard. Ces victoires ne modifiaient pas notablement l'équilibre des forces en présence. Plus le sourcier en tuait, plus les tentacules se multipliaient et gagnaient en agressivité. À force de frapper, surtout avec la résistance du vif argent, Richard avait terriblement mal au bras. Refusant de lui lâcher la main, Nietzsche se servait maintenant de son bras libre pour essayer de repousser les tentacules. Mais elle aussi était déjà emprisonnée et elle semblait souffrir atrocement. Abandonnant les extensions qui lui serraient les bras et les jambes, Richard tenta de soulager un peu sa compagne. Comme Kara, elle lui fut brusquement arrachée en une fraction de seconde. Richard se retrouva seul dans la Slife. Face à une créature apparemment composée de verre qui semblait résolue à l'attirer vers le centre mou de son corps, où béait le créateur seul savait quelle gueule garnie de crocs acérés. Face à un tel monstre, il n'existait aucune défense durable. Un guerrier comme Richard pouvait différer sa défaite, mais en aucun cas l'éviter. Piégé dans le nid de serpent, il allait mourir sans avoir jamais revu Callan. Grisé par son triomphe, la bête poussa un cri qui déchira les tympans de Richard malgré l'effet assourdissant du vif argent. Dans son euphorie, la créature relâcha imperceptiblement sa prise sur les membres du sourcier. Une ouverture dont bien peu d'hommes auraient su tirer parti. Souple comme une anguille, Richard se contorsionna et parvint à filer entre les bras du monstre. La poursuite recommença. Perdu d'avance pour le sourcier. Confronté à un adversaire plus puissant et plus rapide que lui. Et infatigable pour ne rien arranger.
« Ici !»
cria Six.
les phalanges de son poing fermé plaquées sur un emblème pour en désigner le centre. Violette vint placer sa craie en face de la cible que lui montrait sa conseillère. D'une main sûre et vive, elle commença à dessiner à toute vitesse. Du dos de sa main libre, la reine essuya la sueur qui lui ruisselait sur le front, puis elle fit de même avec ses yeux. Rachel ne l'avait jamais vu travailler si vite, ni si intensément. La fillette n'aurait su dire ce qui arrivait, mais une chose était sûre, les opérations ne se passaient pas comme Sis l'avait prévu. La conseillère de Violette oscillait entre la fureur noire et la panique aveugle. Dans tous les cas, ça n'augurait rien de bon pour la petite prisonnière. Alors que la reine parachevait des liens à un rythme effréné, changeant de craie à chaque point d'inflexion, Sis se mit à psalmodier, et le son grinçant des mots qu'elle murmurait s'insinua jusque dans l'âme de Rachel, la déchirant de l'intérieur. Même si elle ne comprenait pas l'antique langage qu'utilisait Sis, la manière dont elle crachait les mots terrifiait la fillette. Elle tourna discrètement la tête vers la lointaine entrée de la grotte. Comme il faisait noir dehors, elle ne vit rien du tout. Raison de plus pour ne pas s'enfuir comme ça sans préparation. De toute façon, si elle forçait une de ses geôlières, voire les deux, à s'interrompre pour la poursuivre, elle paierait très cher sa tentative d'évasion ratée. Chase lui avait appris à maîtriser ses impulsions, comme il disait, pour attendre que se présente une véritable ouverture. Sauf quand elle était en danger de mort, lui avait-il dit, elle ne devait jamais agir sans un plan mûrement réfléchi. La peur n'était en aucun cas une motivation suffisante et il fallait toujours travailler à améliorer ses chances de succès avant de passer à l'action. Si occupée qu'elle soit, ou peut-être à cause de ça, Sis et Violette réagiraient avec une extrême violence à une action inconsidérée de Rachel. Le moment était mal choisi, de se lever et courir n'avait rien d'un bon plan, et qu'il fasse déjà nuit dehors militait aussi contre toute initiative irréfléchie. Alors que Rachel se tenait immobile comme une statue, histoire de ne pas se faire remarquer, Sis tapota doucement plusieurs intersections sur les liens que Violette venait d'établir. Chaque cercle lumineux qu'elle traitait ainsi s'éteignait avec une sorte de grognement sourd qui faisait frissonner la fillette. La grotte entière semblait bourdonner au rythme des sinistres invocations de Sis. Tandis qu'elle dessinait à grands coups de traits précis, Violette jetait de temps en temps un coup d'œil à Sis pour voir où elle en était. Éteignant les phares, les uns après les autres, la femme au visage blafard rattrapait peu à peu la reine. Comme si elle était en transe, Violette accéléra encore le rythme, faisant claquer et grincer sa craie à chaque nouvelle ligne qu'elle traçait. Très vite, ce son s'harmonisa à celui de la voix rappeuse de Sis. Tout autour de la représentation du sourcier, la conseillère semblait tisser un réseau d'invocations qui prenait peu à peu corps. Par exemple, un vent de plus en plus violent soufflait dans la grotte, alors qu'en toute logique, il ne pouvait venir de nulle part. Alors que les phares s'éteignaient les uns après les autres, la reine Violette, loin de céder à l'épuisement, produisait un effort surhumain pour garder un peu d'avance sur sa conseillère. Autant qu'elle détesta sa tortionnaire, Rachel dut convenir que l'exploit était admirable, après tant d'heures passées à dessiner sans marquer la moindre pause. Et la vitesse dans cet exercice n'influait en rien sur la précision, qui restait tout aussi impressionnante qu'au début. L'entraînement intensif imposé par Sis à la reine portait ses fruits. Le portrait en pied de Richard était presque complètement enchâssé dans un treillis serré de symboles et de lignes interconnectées. Lançant un étrange mot qui tenait plus du hurlement de loup que du langage, en tout cas ce cri couvrit sans peine les rugissements de plus en plus insistants du vent, Sis souffla l'ultime balise encore active autour de la silhouette du sourcier. Le vent mourut aussitôt. Les feuilles mortes et autres petits débris qu'il charriait retombèrent sur le sol. Sis cessa d'incanter. Le front plissé de perplexité, elle toucha plusieurs symboles comme si elle voulait leur prendre le pouls.
« C'est trop tard !»
murmura-t-elle. Violette cessa de dessiner.
« Que dis-tu ? » ?»«
Il est prisonnier. » « Relie l'apogée à l'apex secondaire. Vite, Obéis, bon sang !»
Sans hésiter, la reine se tourna de nouveau vers la paroi et dessina plusieurs lignes sinusoïdales descendantes à partir d'un des éléments centraux figurant juste au-dessus de la tête du sourcier.
« Prépare-toi !» dit Six. « Mais ne touche pas les nodes primo d'invocation avant que je te l'aie ordonné !»
Violette fit signe qu'elle avait compris. Les yeux révulsés, Six prit appui sur la roche du bout des doigts et se pencha sur l'image vibrante de réalisme de Richard. Puis elle récita une mystérieuse série de mots presque inaudibles et parfaitement incompréhensibles.